Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session des Mardis de l'éthique organisée par les facultés Loyola en partenariat avec la revue Études et le journal La Croix. Je m'appelle Héloïse Deneville et je suis journaliste à La Croix et j'animerai cette soirée. Le but de cette rencontre, dans laquelle vous aurez la parole en deuxième partie, c'est de mieux faire connaître les états généraux de la bioéthique, sa méthode, ses enjeux et bien sûr les sujets les plus brûlants discutés au cours de ce processus. En quelques mots, ce qu'on appelle les états généraux de la bioéthique, c'est un dispositif unique au monde et pourtant bien peu connu. En France, tous les 5 ans, s'ouvre un espace démocratique où chaque personne est invitée à dire ce qu'elle croit juste, bon et opportun sur ce que le politique pourrait autoriser ou pas parmi les nouvelles découvertes médicales et scientifiques. Le champ est vaste, et pour n'en citer que quelques sujets, cela va du don d'organes à la procréation médicalement assistée, à la recherche médicale, à la manière dont on est, dont on soigne et dont on meurt. Concrètement, depuis janvier, des centaines de débats citoyens ont eu lieu sur tout le territoire, environ 200 auditions nationales ont été menées et le tout piloté par le Comité consultatif national d'éthique, qu'on appellera ce soir par commodité CCNE, un comité d'experts indépendants nommé par l'État, mais vraiment indépendant du gouvernement. Le résultat de toutes ces contributions sera une synthèse publiée le mois prochain, puis un avis formel qui paraîtra à l'automne et qui doit éclairer la prochaine loi votée par les parlementaires, peut-être en 2028, peut-être 2029, on ne sait pas très bien encore. Alors, pour nous aider à mieux comprendre les sujets de cette troisième session des états généraux de bioéthique, nous avons la chance d'avoir avec nous 4 intervenants, 4, on ne fait pas la liaison, je pense, 4. Isabelle de Golemin, alors vous êtes membre du fameux CCNE, qui chapeaute les états généraux de la bioéthique depuis 1 an. Vous êtes aussi présidente des Semaines sociales de France, journaliste de formation, longtemps à La Croix. Vous êtes aujourd'hui une passeuse de ces débats complexes pour le grand public. Donc vous nous direz ce soir à quoi servent concrètement ces états généraux et surtout quels sont les sujets qui ont été le plus abordés depuis leur ouverture en janvier. Alors, Hervé, j'ai très peur de mal prononcer votre nom. Schneeweis, comment vous diriez ? Schneeweis, ok. Vous êtes neurobiologiste et neurologue, directeur émérite de recherche au CNRS et président du comité d'éthique de l'INSERM. Vous travaillez sur les questions que posent les neurosciences, ces technologies qui commencent à lire, voir et modifier ce qui se passe dans notre cerveau. Vous nous expliquerez, j'espère, comment les sociétés délibèrent sur ces questions et comment on construit un cadre éthique autour de ces technologies émergentes. Pascale Saugier-Weber, vous êtes biologiste généticienne, praticière hospitalière au CHU de Rouen, où vous dirigez le laboratoire de génétique moléculaire. C'est vous qui analysez et interprétez les données génétiques des patients pour lesquels il existe une appétence croissante. Et vous nous direz justement pourquoi cette appétence et quelles sont vos réflexions autour de ces nouvelles demandes. Et enfin, Bruno Sainto, vous êtes jésuite, co-responsable du domaine éthique de éthique biomédicale aux facultés Loyola qui nous accueille ce soir. Et vous êtes aussi expert auprès de la Conférence des évêques de France sur les questions de bioéthique. Vous nous direz quels sont les piliers du modèle français de bioéthique et en quoi ce modèle est aujourd'hui peut-être concurrencé par d'autres visions. Donc la manière dont ça va se dérouler ce soir, pendant 10 minutes, chaque intervenant va prendre la parole sur son domaine d'expertise pour en poser les enjeux, puis s'engagera un temps d'échange entre eux. Et dans un second temps, nous aurons une bonne demi-heure pour prendre vos questions, celles du public. Alors, donc pour amorcer la discussion, je m'adresse d'abord à Isabelle de Golemin, donc parce que vous êtes membre du CCNE et vous avez pris part aux états généraux de la bioéthique. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'y est dit ? Quels ont été les sujets qui ont été au cœur des préoccupations de cette session ? On peut évoquer déjà les tests génétiques, la question de la sobriété médicale, la procréation. Vous nous direz un peu tout ce qui est remonté. Et ensuite, dans un second temps, peut-être que vous pouvez nous expliquer comment le travail du CCNE et utilisée par les parlementaires qui s'appuient sur vos avis pour fabriquer la loi.
Ah, c'est bon? Ouais. Merci et merci à vous tous. Et en fait, c'est bien parce que comme on n'est pas trop nombreux, on pourra avoir une discussion. C'est vraiment des sujets hyper compliqués et techniques. Voilà, donc et justement, parce que Héloïse, tu as employé le mot d'experte. Moi, je suis pas experte, je suis assez impressionnée parce que je suis pas experte et si je suis au CCNE, c'est comme représentante de la famille spirituelle catholique. Donc je ne suis pas éthicienne. Alors je suis en train de me former, je fais le DU dont Bruno s'occupe, qui est commun au centre Loyola et à l'ICP, à la Catho de Paris. Voilà, je conçois un peu mon rôle comme un pont, un lien entre toute la réflexion, et qui est quand même vraiment important, toute la réflexion chrétienne et catholique sur ces sujets éthiques, et puis le CCNE. Voilà, je suis assez prudente parce qu'en tout cas pour l'instant je suis quand même pas très experte sur tous ces sujets qui sont très très compliqués. Alors les états généraux, effectivement, c'est une obligation et donc on le fait dans un contexte quand même assez compliqué, déjà un contexte politique, hein, puisque ça vous a pas échappé, il y a bientôt des élections présidentielles avec des enjeux considérables, et considérables aussi pour tout ce qui concerne l'éthique. On ne sait pas ce que ça nous réserve. Donc l'idée, c'était de boucler avant quand même un peu qu'est-ce qu'on pouvait dire, nous, comme CCNE, comme avis sur les différents domaines avant les élections. Le contexte international est quand même aussi sacrément angoissant. Le contexte économique, et ça, c'est très important, je pense, pour le CCNE, parce qu'on réfléchit quand même face à un secteur de la santé qui est en crise, avec donc des problèmes de déserts médicaux, avec des problèmes de surcharge dans des hôpitaux, etc. Donc voilà, il faut aussi tenir compte de ce contexte. Et puis tous les enjeux environnementaux, j'en reparlerai, mais qui sont de plus en plus importants, avec des conséquences sur la santé qu'on connaît et voilà, qui font partie un peu de ce nouveau paysage. Et puis après, il y a, comme chaque révision des lois de bioéthique, il y a toutes les avancées scientifiques qui ne sont pas sans poser de problème. Alors sur la génétique, je crois que c'est assez considérable. Encore une fois, je ne suis pas du tout une experte, mais on a eu pas mal d'auditions de gens qui nous ont un peu expliqué ce qui était en train de se passer. Voilà, en neurosciences aussi, il y a l'arrivée de l'IA qui est aussi voilà, qui est en train de beaucoup changer les choses. Donc il y a aussi toute une évolution scientifique qu'il faut prendre en compte, et puis peut-être aussi, enfin, et aussi une évolution sociétale. Et d'ailleurs, ces derniers temps, le CCNE a beaucoup servi à ça, c'est-à-dire à finalement donner des avis sur des évolutions qui étaient plus sociétales que scientifiques. Hein. Si on pense à l'euthanasie ou la PMA pour tous, pour le coup, là, c'était pas proprement scientifique, c'était quand même une évolution demandée par la société, quoi. Voilà. Donc là, le CCNE a choisi un certain nombre de domaines où ouvrir le débat. Donc ces domaines, ils sont assez finalement, il y a un certain nombre qui sont assez classiques, qui sont les domaines sur lesquels généralement on essaye d'avancer, de voir où est-ce qu'on en est, etc. Il y a tout ce qui est procréation et tests génétiques, tout ce qui est neurosciences, tout ce qui est aussi alors cellules souches organoïdes, peut-être qu'on en reparlera, tout ce qui est greffe et xénogreffe. Bon, greffe, vous savez ce que c'est, xénogreffe, c'est quand on greffe un organe qui vient d'un animal, en l'occurrence du cochon, enfin c'est là-dessus qu'on est aujourd'hui, tout ce qui est numérique et intelligence artificielle, tout ce qui est environnement, rapport environnement-santé, c'était déjà dans les précédents états généraux, mais ça n'avait pas donné lieu à beaucoup de débats. Là, on voit qu'il y a quand même une urgence à pouvoir mesurer éthiquement ce que ça veut dire que de voir des pans entiers de la population qui se retrouvent mis en danger pour leur santé de manière assez grave du fait de la pollution, de la dégradation de l'environnement, etc. Et puis tout la problématique des engrais, enfin voilà. Il y a des nouveaux sujets. Je trouve que... Alors c'est intéressant, sauf qu'on voit au CCNE qu'on a encore un peu du mal à concrètement voir comment on peut jouer un rôle éthique là-dedans. Mais il y a sûrement quelque chose à faire. Il y a le sujet de la sobriété. Alors, c'est pas l'économie, mais c'est la sobriété. C'est-à-dire que dans un contexte quand même serré économiquement, voilà, qu'est-ce qu'on peut enfin, est-ce qu'on peut ouvrir à tout, avec en plus les remboursements qui s'en suivent, donc ça pèse sur le budget de l'État, enfin de la sécurité sociale, toutes les innovations sociales, tout ce qui est possible, est-ce que tout ce qui est possible doit être fait, doit être financé, sachant que déjà on finance pas un certain nombre de choses dans tout ce qui est protection, le PMI infantile, etc., médecine scolaire, il n'y a plus de médecins scolaires. Donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire de financer des nouvelles découvertes qui coûtent quand même très cher? Et qu'est-ce que ça veut dire aussi, la sobriété, qu'est-ce que veut dire le soin? C'est toute la problématique de l'acharnement. Voilà, jusqu'où aller dans le soin? Et il y a un moment où soigner plus met le malade finalement en situation aussi assez insupportable ou épouvantable. Donc il y a une balance à faire sur le bien-être du malade qui est intéressante et sur laquelle il faut avancer.
Et tu me disais aussi une question générationnelle.
Oui, il y a une question générationnelle qui tient à cœur parce que tu es jeune, qui est le fait que les trois quarts du budget de la sécurité sociale vont aujourd'hui pour les personnes âgées. Voilà, ce qui est finalement un effet mécanique. Les dernières années, des gens coûtent cher à la sécurité sociale. Donc, il y a un problème de solidarité avec les anciens. Mais du coup, il faut voir que ça ne se fasse pas au détriment des générations les plus jeunes, qui peuvent à bon droit se dire, nous, on finance et puis on n'en profite pas. Enfin, voilà. Donc, il y a tout un équilibre. Et ce à quoi on est assez attentifs, c'est que ça ne se traduise pas justement par une guerre des générations par rapport à cette projection de la santé. Il y a tout ce qui est prévention aussi. Qui est un peu le parent pauvre de la santé, mais qui pose aussi des problèmes éthiques, parce que justement, est-ce qu'il faudrait pas mieux prévenir que guérir, et où doit se mettre la prévention, de quelle manière, forme obligatoire ou incitative, enfin voilà, c'est tout le dossier de la prévention qui aujourd'hui est très négligé en France. Et puis il y a aussi un chapitre dont je vous parlerai pas beaucoup parce que pour le coup je suis vraiment pas spécialiste, sur l'outre-mer. Mais qui est intéressant parce qu'effectivement, il y a des problèmes en Outre-mer de confiance dans la médecine, de confiance dans la science, qui a aussi d'ailleurs en France,
comment on dit, la France métropolitaine.
Métropolitaine, merci. Mais et puis il y a un état de la santé des personnes qui est très très dégradé. Donc voilà. Donc là, on a fait, je crois, 250 auditions. Enfin, ça, il y a eu un certain nombre d'auditions. Alors les auditions, c'est des associations. C'est des sociétés savantes, c'est des gens qui sont des institutions, les cultes, hein. On a reçu par exemple l'Église catholique, les musulmans, les juifs et les protestants. On a reçu tous ces gens-là. On a fait aussi des colloques communs, notamment avec l'INSERM, sur d'autres sujets, avec l'école, l'ENS sur l'environnement. Enfin voilà, on fait aussi des colloques avec des institutions. Le CESE a organisé deux comités citoyens. C'est un peu moins cher que les conventions citoyennes à réaliser, mais qui ont été très intéressantes, notamment sur les problèmes de génétique et sur la sobriété.
Et là, avec des personnes tirées au sort, je crois.
Avec des personnes tirées au sort selon leur propre... Ils sont très experts maintenant là-dedans. Et avec des gens du CESE qui sont des animateurs de débat, et pour permettre le débat entre ces personnes. Et moi, j'y suis allé à leur compte-rendu, enfin, quand ils ont rendu compte de leur décision. Et franchement, ils ont fait un super boulot, ils se sont tous beaucoup, c'était intéressant, beaucoup pris de passion pour ces deux sujets que sont la génétique et la sobriété. Donc ça, c'est aussi, voilà, on met ça aussi dans le dossier. Il va y avoir un rapport qui va être publié normalement en juin, qui n'est pas l'avis, hein, qui est un rapport, c'est-à-dire qui va dire, en gros, voilà tout ce qu'on a entendu, voilà les sujets qui sont montés. Alors, dans ce qui est monté fort, il y a tout ce qui est procréation. On en reparlera, mais alors ça, c'est beaucoup, beaucoup d'auditions là-dessus. Il y a beaucoup de choses aussi, évidemment, sur l'IA, sur l'environnement. Dans tout ce qu'on sent. Mais c'est vrai que la procréation, ça a pris quand même une grosse partie et aux procréations génétiques, GPA, etc.
C'est ça. Et en deux mots, sur la procréation, à quoi ça ressemble, les sujets?
La procréation, en fait, c'est un peu les conséquences de la PMA pour tous. C'est-à-dire ce qu'on n'avait pas vu, on a donné cette possibilité d'un droit pour toutes les femmes d'un certain âge si elles vivent en couple avec une femme, soit si elles n'ont pas de relation affective avec un homme, à avoir un projet d'enfant, de procréation. Et en fait, on n'avait pas prévu que ça allait entraîner, enfin, avoir finalement beaucoup de succès, et qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont dans les centres de procréation et qui sont aujourd'hui débordés, donc avec des délais d'attente extrêmement longs, etc. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, le système de la PMA en France marche assez mal. C'est des délais extrêmement longs, il y a beaucoup de souffrance, etc. Et par rapport à ça, il y a des gens qui voudraient finalement qu'on rende les choses plus fluides, je mets plein de guillemets, c'est-à-dire en permettant voilà, une présélection des embryons qui permettrait aux femmes qui sont en PMA de faire moins de fausses couches, voilà, de faire des choses comme ça. Il y a toute la problématique de si deux femmes, une femme veut prendre ses ovocytes pour implanter un embryon dans le ventre de sa compagne. Donc aujourd'hui, c'est pas possible parce que les dons sont anonymes. Mais voilà, elle le demande et ça ferait vraiment un enfant. Enfin, il y a derrière la volonté d'impliquer les deux femmes dans l'acte de procréation. Voilà, il y a pas mal de problématiques comme ça. Et puis il y a la GPA qui est jamais très loin dans les gens qu'on reçoit, avec effectivement un certain nombre de gens qui militent pour qu'il y ait au moins un grand débat GPA en France, ce qui, à mon avis, est la meilleure manière d'arriver à avoir ensuite un vote de GPA. Mais bon, voilà. Donc ça, effectivement, c'est des sujets qui sont pas mal revenus.
Juste une dernière question sur les états généraux de la bioéthique. Est-ce qu'il y a monsieur et madame tout le monde qui s'y rendent, ou c'est un espace qui est quand même investi par des militants de tous bords qui soient...
Honnêtement, c'est un peu la limite, parce que d'abord, pour y aller, il faut quand même être une association ou être, voilà, ce qui d'ailleurs peut se comprendre. Il faut d'abord faire un rapport pour montrer qu'on est sérieux, qu'on a des choses à dire, etc. Donc c'est pas monsieur et madame tout le monde. Après, il y a eu beaucoup de débats en région et monsieur et madame tout le monde pouvaient y aller. Alors je sais pas s'ils y sont allés, mais en tout cas, ils pouvaient y aller. Mais c'est vrai que ça vaut le coup de s'investir dans les structures régionales d'éthique. Notamment en France, on a un centre d'éthique très, très vivant. Enfin, vous allez sur son site, vous verrez, il y a plein de choses. Donc voilà, ça peut valoir le coup. Mais c'est vrai que la problématique, en fait, je pense que c'est un peu le rôle du CCNE qui peut poser problème. Alors après, je ne sais pas ce que Bruno en pense ou d'autres. C'est-à-dire que, quelque part, ça a été quand même inventé par François Mitterrand au moment du premier bébé éprouvette Amandine en France. Pour finalement servir d'alerte ou d'éclairer les décideurs sur les impasses éthiques ou les arrêts éthiques des choses. Voilà, pour dire attention, il y a ça, voilà. Et c'est devenu un peu, et ce processus, à mon avis, des états généraux, il conduit aussi un peu, ça devient un peu des gens qui doivent dire aux politiques s'ils peuvent ou pas y aller. Je suis pas sûr que ça soit complètement notre rôle. Parce que du coup, il y a une, on l'a vu un peu, me semble-t-il, pour la fin de vie. C'est-à-dire que du coup, il y a des pressions sur le CCNE. Je suis pas sûr qu'il soit là pour dire oui, allez-y. Mais c'est vrai que les politiques, ils ont envie d'avoir une caution au CCNE. Mais du coup, est-ce que ça n'empêche pas une forme de liberté pour dire finalement, prenez vos responsabilités. Mais nous, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a ça qui pose quand même problème. Donc c'est à vous ensuite de prendre vos responsabilités. Voilà. Je trouve que le CCNE, il ne faudrait pas que ça devienne un instrument politique qui permette finalement qui permette aux politiques de prendre la décision à leur place. À la fin du fin, c'est vraiment aux politiques de prendre cette décision. Et c'est pas au CCNE. C'est pas au CCNE de dire si la fin de vie c'est une bonne chose ou pas, me semble-t-il. Il a fait un avis où il a montré toutes les problématiques, mais on a voulu un peu lui tordre le bras pour dire bon, le CCNE, d'accord, on peut y aller. Je suis pas sûr que ça soit le rôle du CCNE, voilà, mais c'est mon avis personnel.
En s'appuyant sur la légitimité démocratique du CCNE en amont.
Alors c'est vrai que le CCNE est très légitime, mais ça c'est plutôt bien, c'est-à-dire qu'il est quand même très écouté. Mais je pense que justement pour continuer à être écouté, il faut qu'il reste dans son rôle, qui est ce rôle de veilleur et d'avertisseur des problématiques éthiques et de faire avancer la réflexion éthique, et qui n'est pas un rôle d'antichambre du pouvoir politique. Voilà, c'est ça qui est compliqué.
Merci. Bruno Sainteau, ce soir, on réfléchit dans un cadre philosophique, éthique précis, qui est celui du, du modèle éthique français. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quels sont ses piliers, en quoi il se distingue d'autres modèles, et est-ce qu'il est aujourd'hui concurrencé ou menacé par d'autres visions? C'est vraiment dans ce cadre philosophique et éthique qu'on réfléchit. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer?
Merci. Alors Isabelle a commencé à parler en disant, écoutez, c'est un débat extrêmement technique, spécialisé. Donc évidemment, si le débat était spécialisé et très technique, nous, pauvres citoyens, nous n'aurions pas grand-chose à dire, n'est-ce pas? Bon. Alors, si nous avons quelque chose à dire, c'est que nous comprenons un certain nombre d'enjeux. Voilà. Le CCNE, en 2018, avait posé une très bonne question. Quel monde voulons-nous pour demain? Eh bien, quels que soient les citoyens, leur niveau de connaissance technique, scientifique, nous avons tous quelque chose, une certaine idée d'un monde désirable pour l'avenir. Pour nous, ceux qui viendront après nous, le type de société que nous voulons. Voilà. Alors je dirais le cadre éthique français, ce que le Conseil d'État appelle le modèle français de bioéthique, il est caractérisé par trois piliers en fait qui sont articulés. D'abord, la prééminence de la dignité. Donc le Conseil d'État le rappelle vraiment, la prééminence de la dignité. La prééminence de la dignité a une conséquence importante pour le Conseil d'État et pour nous aussi, c'est que au nom de la dignité, nous pouvons contraindre un certain nombre de libertés. Donc il y a un rapport entre dignité et liberté, puisque les trois piliers, c'est dignité, liberté et solidarité. Bon, on pourrait en ajouter d'autres, on verra. Je propose d'en ajouter d'autres, mais on verra. Donc, dignité. Dignité, ça veut dire que tout être humain, en fait, a une valeur absolue, quelles que soient ses connaissances, quel que soit son état de santé, quel que soit son degré de faiblesse, quel que soit son niveau de vie, voilà. Donc, l'homme est une valeur absolue, on pourrait dire. Alors, pour le Conseil d'État, ça c'est très important. Il y a une deuxième chose qui est importante, qui découle du principe de dignité, c'est le rapport de la personne à son corps. Ça c'est très important pour toutes les questions que nous allons traiter. Est-ce que le corps est un simple instrument à disposition d'une volonté? Ou est-ce que entre la personne et son corps, il y a un lien intime? On ne peut pas séparer la personne de son corps. Alors, le modèle français de bioéthique, il se caractérise par la non-dissociation entre la personne et son corps, entre le sujet de droit et son corps. Ça a une conséquence très simple. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire de son propre corps un instrument au service de sa volonté ou un instrument au service de quelqu'un d'autre. Voilà. En droit français, il y a ce qui est la non-patrimonialité du corps. Je ne peux pas faire de mon corps un patrimoine. Si c'était un patrimoine, je pourrais vendre mon sang. Si j'ai besoin, je pourrais vendre mes organes, enfin certains, pas tous, évidemment, voilà, les gamètes, etc. Donc en droit français, il y a le principe de non-patrimonialité du corps, ce qui fait que, par exemple, il y a interdiction de la GPA, toute convention portant sur la convention portant sur la procréation est nulle parce qu'on instrumentaliserait le corps de quelqu'un. Voilà. On pourra débattre, mais enfin c'est ça. Donc, la dignité de la personne, le rapport spécifique de la personne à son corps, le corps n'est pas un instrument, le corps n'est pas un réservoir d'organes à disposition, voilà. La liberté, évidemment fondamentale, mais la liberté, elle est contrainte potentiellement par la dignité, et la liberté, elle est contrainte par la solidarité. Nous avons un modèle qui est issu de l'après-guerre, 1944, elle a déjà été élaborée au sortir de l'après-guerre. Nous nous mettons tous d'accord en France, quels que soient les courants de pensée, au sortir de la guerre, pour dire nous allons élaborer un modèle social. Alors il y avait tous les courants, les communistes, les cathos, les francs-maçons, tout le monde était d'accord pour dire c'est ça qu'on veut. Donc un modèle de solidarité. Une des grandes questions, c'est est-ce que ces trépieds dignité, liberté, solidarité, il ne va pas être ébranlé par un certain nombre de droits, voilà, ou de réclamations. Isabelle a dit qu'à chaque, lors de chaque état général de la bioéthique, et chaque fois qu'on vote une loi, évidemment on s'attend à avoir quelque chose en plus. Si le législateur nous dit non, vous n'aurez rien de plus, ou au contraire, vous aurez des choses en moins parce qu'on a compris que ça poserait problème.
Ça, c'est peut-être une question, c'est-à-dire que tous les cinq ans, les états généraux de la bioéthique sont convoqués. 7 ans pardon, je me suis trompée, donc c'est 7 ans. Et forcément, une loi sera votée derrière. Donc il y a quelque chose de l'ordre de.
Oui, bah, par exemple, 2018, la loi, elle a pris 3 ans. Hein, parce qu'elle a commencé en janvier 2018 et la loi a été votée en août 2021. Donc, c'est ça. ça prend du temps, hein, ça prend énormément de temps. Voilà, donc c'est pour dire le calendrier. Alors, pourquoi le modèle est important? C'est un modèle de solidarité. Ça veut dire que les petits, les plus faibles, ils ont droit aux soins de même qualité. Ça veut dire que les libertés, parce qu'elles engagent la solidarité, elles engagent la dignité d'autrui, elles pourront être contraintes. Donc ça, en fait, c'est pas un modèle ultralibéral. C'est un modèle qui est contraint, mais contraint par la solidarité et par la dignité. Voilà. Donc ça, je pense que c'est très très important. Et on pourrait dire que au fur et à mesure de l'évolution, parce que les citoyens ont de nouvelles attentes, pour moi, un des enjeux, c'est est-ce que ce modèle-là, il va tenir ou est-ce qu'il ne tiendra pas? Est-ce que les libertés individuelles réclamant sans cesse de nouveaux droits et convoquant le social pour que ces droits soient effectifs, c'est pas, si je demande quelque chose, je veux le financement qui va avec, moi. Est-ce que ça ne va pas menacer notre modèle de solidarité? Donc, ce qu'on peut observer au niveau international, c'est qu'il y a des systèmes éthiques complètement différents. Il y a des modèles beaucoup plus libéraux, où en fait, il y a des biens de santé qui sont à disposition, et puis selon les revenus, on peut avoir un certain nombre de prestations. Ce n'est pas le modèle que nous avons choisi. Voilà. Donc, est-ce qu'on va pouvoir contraindre les libertés au nom du modèle de solidarité et au nom du modèle de ce qu'on appelle la dignité et de ce modèle très très particulier où l'être humain, l'individu, n'est pas pleinement maître de son corps. Donc, il y a, vous voyez, cette idée qu'on pourrait appeler une anthropologie du soin, une anthropologie riche du soin. L'individu n'est pas le seul sujet de liberté. On ne peut pas dissocier avec son corps. Il ne peut pas en faire ce qu'il veut. Ça va avoir de grandes conséquences. Et puis, si j'ai quelques minutes, je vais rajouter quelques petites choses.
Allez-y.
Donc, on va dire, c'est, moi, ce que je vois comme menace, c'est un modèle qui serait très, très libéral, en fait. Mais au nom des poussées des libertés individuelles.
Dont le bien suprême serait quoi? Le consentement, le contrat?
Non, c'est là, je demande au corps social qu'il réalise ma volonté. Mais sans forcément m'apercevoir qu'il y a d'autres personnes qui sont invoquées. Que si j'ai ces prestations de la santé, peut-être que les prestations de base ne seront plus assurées. Isabelle a parlé d'un modèle quand même, un modèle hospitalier qui est fragilisé depuis longtemps. Il y a beaucoup de services qui sont fermés, soit par manque d'infirmières, soit par manque de médecins. Donc on peut dire que la qualité de base n'est déjà plus assurée. Alors est-ce qu'on va vouloir sans cesse plus de prestations techniques quand le modèle de base du soin n'est plus assuré? C'est une vraie question. Voilà. Donc où faut-il mettre l'argent prioritairement, etc. Alors, peut-être un petit point aussi sur la question de la sobriété. C'est vrai, c'est un mot qui paraît un peu magique aujourd'hui, parce qu'il résonne avec l'écologie, etc. Alors, l'Académie de médecine a défini la sobriété comme un soin pertinent et de qualité en face, enfin, opposé à une dérive de la quantité. Donc, la sobriété pour l'Académie nationale de médecine, c'est un moyen de s'opposer à la surmédicalisation, surconsommation de médicaments. C'est vrai qu'on surconsomme les médicaments. Mais voilà. On va voir le médecin, il faut absolument qu'on ait les médicaments, sinon il n'a rien fait. Bon. Voilà. Donc, en fait, il y a un moment donné où le manque de justesse de la prescription, en fait, nuit aux personnes, nuit au système. Voilà. Donc, l'Académie de médecine a proposé le thème de la sobriété en disant il faut un soin pertinent, on pourrait se dire, évidemment, si un soin n'est pas pertinent et de qualité, évidemment. Pour s'opposer à la surmédicalisation, mais en précisant dans le titre de la sobriété que c'est un principe civique de solidarité. Ça veut dire quoi? À mon avis, c'est que le concept de sobriété, il n'est pas assez précis. Il faudrait plutôt parler de la justesse du soin. La justesse du soin, c'est un soin qui est ajusté. Donc, pour une personne, dans une situation donnée, on lui donne pas trop, on lui donne ce qui correspond, et il est ajusté par rapport au cadre social.
Oui, parce que le mot sobriété peut laisser entendre qu'on
fera moins. Si vous dites aux gens, on va être sobre, on fera moins.
De manière un peu principale.
Un jour, il fera moins aussi, dans certains domaines. Voilà, on pourra en discuter. Donc, la justesse du soin, et puis la justice du soin. Il faudrait pouvoir articuler la justesse du soin, un soin adapté, et la justice du soin, c'est-à-dire un modèle de solidarité. Et un modèle où les petits, les plus faibles, ceux qui ont moins d'argent, ben, ils vont bénéficier, au nom d'un principe de justice, de la même qualité de soins. Donc quand on articule ça, la justesse et la justice du soin, il y a des choses qui vont être possibles et des choses qui ne vont pas être possibles ou qui vont être moins désirables. On va dire comment il faut faire pour réduire la surconsommation de médicaments. Voilà. Et puis la troisième chose, si j'ai encore une minute.
Allez-y.
La troisième chose que je voudrais dire, c'est que pour appréhender ces questions-là, il faut avoir un modèle du soin. Alors, on parle beaucoup de soins. Moi, je préférerais dire comment allons-nous prendre soin, voilà, parce que vous savez qu'en France, on a, enfin, les anglo-saxons, il y a le to cure et to care, donc les soins, on va dire, thérapeutiques, et puis les soins d'accompagnement, etc. Peut-être qu'il faudrait employer un mot plus riche, par exemple prendre soin, où on tiendrait compte de la dimension médicale du soin, de la dimension psychologique du soin, psychique, de la dimension sociale, de la dimension politique, de la dimension environnementale. Donc on prend soin de manière systémique. On pourrait ajouter même de la dimension spirituelle de la personne, on pourrait dire ça aussi, qui fait partie d'elle. Donc l'idée, c'est que le soin n'est pas seulement apporter une thérapeutique active, mais il prend sens dans un grand contexte, un environnement, des liens sociaux qui sont là ou qui manquent et qui vont altérer la santé des gens. Le type de liens sociaux, le type de solidarité politique, le type de prestations médicales. Donc je plaiderais pour une approche, on va dire, c'est un gros mot, mais systémique. Vous voyez, on tient compte, pour soigner les gens, on tient compte de beaucoup de paramètres. On tient compte que l'homme est un individu, mais qu'il vit en société, il a un réseau familial ou de proches, il y a un réseau social. Vous savez qu'il y a plein de maladies qui sont dues au manque de solidarité, au manque de liens, la solitude par exemple. Voilà. Donc une appréhension, une compréhension plutôt systémique du soin. Également sur la santé environnementale qui était abordée par Isabelle. Voilà, c'est trois points, si ça vous suffit.
Oui, non, juste une petite question. Vous avez bien décrit, c'était limpide, les trois piliers du modèle français de bioéthique. Et puis vous avez dit que probablement on était en train de glisser vers autre chose qui n'articulait pas de manière aussi symphonique, liberté, solidarité et dignité. Est-ce que vous auriez un exemple d'une loi, d'une réforme qui vous fait penser qu'on est passé dans autre chose?
Le toujours plus. Alors on parlera peut-être de la procréation, on pourra parler des tests génétiques. Le toujours plus n'est pas forcément le toujours plus ajusté à ce que sont les personnes et ce dont elles ont besoin. Et puis le toujours plus de réclamation des individus n'est pas compatible forcément avec la solidarité. Alors on va parler des tests génétiques, bon, ça coûte de moins en moins cher. Voilà. Bon, peut-être, bon, oui, voilà. Mais ça coûte cher, voilà. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour, par exemple, traiter des cancers avancés? Il faut que la recherche progresse. Donc, on va donner des traitements extrêmement coûteux, des dizaines de milliers d'euros par mois, par exemple. Ça va faire progresser la recherche. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas rééquilibrer au nom d'un principe de justice? En faire moins sur certains domaines pour, par exemple, avoir plus d'infirmières. Il va falloir faire des arbitrages. Voilà. Donc, c'est ça, en fait, qui va être derrière. Mais on ne pourra pas dire dans un modèle où tous les individus veulent toujours plus. S'il y a le degré de la qualité. Dans un système beaucoup plus libéral, on pourrait dire très bien, la recherche fait des progrès, ça va coûter cher. Et ceux qui auront de l'argent pourront l'avoir, les autres n'auront pas. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Mais si on veut les deux, ça marche pas, il faut choisir. Donc je pense qu'il faut choisir entre un modèle de solidarité et un modèle ultralibéral, où progressivement, on pourrait dire, les attentes des individus vis-à-vis du corps social ne seront plus compatibles avec, je veux dire, un principe de justice dans le soin, où les prestations globales, fondamentales de santé ne sont plus assurées pour tous. Et ça, c'est difficile pour nous, parce qu'il n'y a pas un politique qui peut dire, attendez, on va peut-être un peu trop vite là, il faudrait quand même assurer d'abord les soins de base nécessaires pour l'ensemble de la population. C'est pas facile politiquement de dire ça. Donc voilà, c'est plus facile de dire, vous avez demandé ça, on va vous l'accorder dans certaines conditions. Voilà. Est-ce que c'est clair ce...
Oui, c'est très clair, voilà. Et puis ça va devenir encore plus clair avec les explications de...
Après, je pourrais donner des exemples. Hein. Oui. On pourrait prendre des exemples extrêmes sur la gamétogenèse in vitro, l'art de progrès. On est sur le point, enfin c'est pas mal au point pour les souris, mais sur pour les humains aussi.
Oui, on vous expliquera.
Ça va coûter cher, etc. Mais qui va avoir ça? Quelle est la signification de telle technique, etc. Oui.
Voilà. Merci beaucoup. Pascal Saugier-Weber, pouvez-vous nous parler des enjeux des tests génétiques? en population générale, donc ça veut dire nous. Plusieurs questions sont remontées pendant les états généraux. Par exemple, faut-il proposer des tests génétiques à tous les couples avant une grossesse et non plus seulement aux familles déjà identifiées à risque? Faut-il élargir les diagnostics avant la naissance ou la conception à de nouvelles pathologies? Alors, pour vous, quels sont les sujets les plus pressants dans le débat, donc c'est-à-dire qui remontent chez les patients ou les politiques ou les lobbies, que sais-je? Et quelles sont les questions éthiques que ces demandes soulèvent selon vous?
Peut-être que pour introduire un petit peu, il faut que vous mesuriez les progrès absolument phénoménaux qui ont eu lieu ces dernières années, mais vraiment ces dernières années, puisqu'on a depuis 2015 environ une nouvelle technologie et que depuis 2020, on est capable de séquencer le génome entier, soit les 3 milliards de paires de bases par individu. Et ça, c'est une révolution médicale parce que ça permet de faire des diagnostics pour des maladies génétiques là où on n'arrivait pas à le faire. Donc c'est une révolution médicale. Mais parce qu'on séquence tout notre ADN, on est capable de détecter aussi plein d'autres choses dans notre ADN. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'expression que l'ADN, c'est le livre de la vie. On a eu sans doute tort d'utiliser cette métaphore parce qu'on aurait peut-être dû parler de la boîte de Pandore qui explique mieux pourquoi on vous demande votre consentement avant de faire une analyse de génétique. Précisément parce que dans votre ADN, il y a plein d'informations. Il y a déjà l'information de qui nous sommes, notre famille d'hommes, les migrations humaines, mais aussi sur le plan ethnique, qui nous sommes, d'où nous venons, avec un risque de discrimination. Mais il y a aussi des informations sur médicales, voilà, et de filiation. Donc, en fait, donc moi, tous les matins, quand je vais travailler, je suis heureuse d'aller travailler et je n'ai pas de problème éthique dans l'exercice de ma profession. Je suis sûre que ce que je fais, c'est utile pour les patients et pour leurs familles. Mais maintenant qu'on a toutes ces informations, là j'ai oublié de vous dire, hein,
oui.
Séquençage de génome humain, nous identifions 4 millions de variations par individu. Parmi ces variations, il y a éventuellement la mutation, je ne vais pas dire faute d'orthographe, mais vous voyez ce que je veux dire, qui cause la maladie pour laquelle on prescrit ce séquençage de génome, mais il y a énormément d'autres variations. Nous sommes tous porteurs de variations qui vont permettre de peut-être d'avoir un enfant atteint d'une maladie génétique dans notre descendance.
Peut-être.
Peut-être. Ou peut-être développer une maladie un petit peu plus tard. Moi, j'ai une petite surdité familiale. Nous sommes tous porteurs, tous porteurs de petites mutations qui nous enquiquinent. Voilà. Plus ou moins. Et donc, comme on est capable de séquencer les 3 milliards de paires de bases, d'identifier ces 4 millions de variations par individu, eh bien, l'idée a émergé que pourquoi ne pas utiliser toutes ces informations, cette fois dans un but de prévention. Alors, en France, on n'est pas très bon, vous le disiez, pour la prévention. Et on doit dire que quand même, le rôle du médecin, ce n'est pas que de soigner, c'est aussi de prévenir. C'est pour ça que le débat est compliqué. Il ne faut pas faire à l'emporte-pièce dire que faut être plein de nuances dans ce débat parce que la question est tout de même légitime. Et donc, les questions qui ont émergé ces dernières années, c'est comme vous le disiez, faut-il, avant tout désir de procréation, proposer aux deux membres du couple de faire une analyse de génétique pour savoir s'ils ont un risque d'avoir une maladie. Alors, selon un certain mode de transmission, on appelle ça autosomique récessif, Ça veut dire qu'il faut, comme la mucoviscidose, si vous voulez, que monsieur et madame soient porteurs d'une variation dans le même gène pour qu'ils aient un risque de 1 sur 4 d'avoir un enfant atteint de cette maladie génétique. Alors, quels sont les risques attachés à cette pratique? Je vous liste les deux autres thématiques avant de revenir éventuellement. Mais...
Si, je vous couperai, sans scrupule.
Le deuxième chapitre, c'est le dépistage néonatal. Pour l'instant, en France, on dépiste, et ça a changé là en septembre dernier, mais on dépiste 17 maladies génétiques à la naissance, à partir de cette petite goutte de sang prélevée sur un buvard, des maladies pour lesquelles il existe des traitements. Et on sait qu'on fait énormément de progrès de traitement de maladies génétiques. Et donc la question c'est, est-ce que pour détecter beaucoup plus rapidement sur une seule petite goutte de sang, beaucoup plus de maladies, on n'a pas intérêt à utiliser notre nouvelle technique de séquençage au débit hyper puissante pour séquencer plein de maladies dès la naissance. Et donc la question est, quelle maladie faut-il détecter? Et le troisième débat, c'est la question des tests en ligne sur Internet. Faut-il autoriser ces tests en ligne sur Internet sur la base de l'autonomie de la personne? C'est mon ADN. J'ai le droit de savoir.
Pour l'instant, c'est interdit en France, me semble-t-il.
En France, c'est interdit. Trop peu de personnes sont conscientes de cette interdiction et je pourrais vous développer un peu le débat. Donc, en fait, dans notre société, je pense que le cœur du débat, c'est cette notion d'autonomie qui a beaucoup évolué au cours des dernières années et qui est très influencée aussi par le modèle anglo-saxon. Donc, d'une part, je dirais bien la moitié de la population estime que c'est mon ADN, donc j'ai le droit d'en faire ce que je veux, j'ai le droit de tout connaître, et je refuse jusqu'au fait qu'un médecin puisse choisir ce qui est bon pour moi de savoir, ou que un cadre législatif définisse ce qui est bon pour moi de savoir. Et de l'autre côté, donc c'est le yin et le yang, il y a cette loi de la bioéthique, non, il y a cette, pour l'instant, la loi de bioéthique qui nous dit, en fait, trop d'informations tue l'information. La personne qui doit signer son consentement et dire ce qu'elle souhaite vraiment n'est pas suffisamment libre pour choisir. Elle a besoin d'un tiers bienveillant pour créer un espace de discernement et choisir avec plus de liberté ce qu'elle souhaite dans l'analyse génétique. Parce que finalement, on va vous présenter l'analyse de génétique en disant qu'il y a un bénéfice médical, mais ce n'est pas tout à fait de ça dont il s'agit. Vous allez avoir plein d'autres informations. Est-ce que vous voudrez avoir accès à ces informations? Quel type d'information? Est-ce que c'est pour votre descendance? Est-ce que c'est, si je tombe sur une information supplémentaire, est-ce que vous allez vouloir la savoir? Est-ce que vous allez vouloir connaître que les informations pour lesquelles il y a un risque de maladie avec un traitement? Et s'il n'y a pas de traitement, est-ce que vous voudrez le savoir? Donc finalement, ce n'est pas la médecine qui est interrogée, c'est beaucoup de la psychologie. Mmh. Ce sont les liens familiaux qui sont interrogés. Et puis, c'est beaucoup notre société. Qu'est-ce que vous... Le titre de la concertation de la dernière État général bioéthique était très judicieusement choisi. Quel monde voulons-nous pour demain? Comment voulons-nous faire société? Donc là, je rejoins pleinement tous les critères de réflexion sur lesquels nous devons nous appuyer Et j'insiste sur le fait que finalement, le débat médical, c'est pas peanuts totalement, mais c'est presque souvent mineur par rapport à l'énormité de l'enjeu du test génétique qui est proposé.
Merci madame. On va avoir une quatrième intervention qui, je n'en doute pas, nourrira aussi des questions chez vous. Alors, Hervé Schneves, voilà. Vous travaillez.
C'est comme pour le soin, le plus simple.
Le plus simple, exactement. Vous travaillez sur les neurosciences et les neurotechnologies. Alors, si j'en crois mes recherches, le marché des dispositifs neurotechnologiques explose. On parle d'une multiplication par 4 d'ici 2035. Mais alors, ma première question, ça serait concrètement, on parle de quoi ? Qu'est-ce que c'est ces technologies susceptibles d'entrer dans le champ législatif ces prochaines années ? Et puis dans un second temps, là aussi, on aimerait que vous nous expliquiez quelles questions éthiques elles vont poser. Mais là où je voyais un peu pour les tests génétiques, vraiment les neurotechnologies, les neurosciences, comme objet, comme soin, pour l'instant, je ne visualise pas. Je vous écoute.
Bon, on va essayer de vous éclairer un tout petit peu. Alors avant que j'aborde ça, je vais quand même faire une déclaration de lien d'intérêt, ce qui est quand même le minimum quand on fait de l'éthique. C'est que je fais partie du comité de pilotage des états généraux de cette année. Et donc, juste pour préciser ce qu'Isabelle a déjà dit, il y a eu 266 débats en région. Ces débats ont réuni en général, comme ici, entre 50 et 200 personnes. Et il y aura une recension normalement de tous, mais en réalité 200 à peu près recensions qui remonteront dans le document dont a parlé Isabelle. Pour le mois de juin. Donc il y a quand même une mobilisation importante, et en particulier des jeunes, puisque en région, la moitié des débats ont été dirigés vers des 16-18 ans. J'ai aussi été dans le comité de pilotage des États généraux 2018 et dans le groupe de travail du Conseil d'État qui a élaboré l'avis juste avant la loi. Parce que les lois bioéthiques, elles se révisent d'une part par un processus législatif. Il y a l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques qui est en train de mener un certain nombre de travaux d'audition. D'autre part, le CCNE. Et puis ensuite, tout ça est déféré au Conseil d'État qui donne son avis au gouvernement. Et ça donne à la fin la loi bioéthique. Juste pour rappeler aussi que cette loi bioéthique, pourquoi elle change ? Parce que la science, en tout cas les recherches, aboutissent à des connaissances nouvelles. Vous avez rappelé à juste titre qu'au départ, c'est dans le contexte de la procréation in vitro, donc la naissance de Louise Braun, 2-3 ans avant Amandine. Mais donc dans ce contexte-là, et c'est nos pères fondateurs, entre guillemets, Jean-Bernard, Jean Burger, qui ont obtenu de François Mitterrand qu'il crée le CCNE en disant « Les médecins, les scientifiques, ne peuvent pas décider seuls. » Et ça date déjà de toutes les technologies de réanimation des années 50, et encore une fois, Jean Burger était dans l'affaire. Qui est-ce qui décide quand une personne est décédée ? Qu'est-ce que sont les critères de la mort cérébrale ? Et quand on peut prélever un organe ? Et d'une façon générale, les lois bioéthiques, et Bruno Sainteau l'a déjà dit, c'est l'utilisation du corps d'une personne au service d'une autre. Ça peut être totalement altruiste, le don de gamètes, le don d'organes, le don du sang. Voilà, ce sont comment est-ce que les technologies nouvelles nous permettent d'utiliser le corps d'une personne. Et donc, comme il y a des progrès, et on vient de le voir avec la génétique énorme, il faut faire le point de ces progrès et faire le point des questions qu'elles posent à la société et de comment on encadre ça. Alors, les neurosciences, ce sont les sciences qui étudient le fonctionnement du système nerveux d'une façon générale. Et au cours des 15 dernières années, les grandes initiatives internationales, que ce soit le Human Brain Project en Europe, l'initiative Brain aux États-Unis, d'autres initiatives en Chine, au Japon, en Corée, ont abouti à des connaissances nouvelles. On est très ignorant encore aujourd'hui, mais on a fait beaucoup de progrès de connaissances sur le fonctionnement du système nerveux en général et du système
et du cerveau en particulier. Et dès le départ, des piliers éthiques ont été mis dans ces domaines parce qu'on savait que qu'est-ce que notre individualité, qu'est-ce qui fait que nous sommes une personne, qu'est-ce qui fait ce je que je suis capable de dire. Vous avez chacun d'entre vous une idée, mais enfin, sans le cerveau, on n'y arrive pas. Et donc, c'est notre cerveau qui quand même nous permet cette interface avec le monde et qui nous permet d'être ce que nous sommes. Donc, on savait qu'à développer des technologies qui vont permettre de lire l'activité cérébrale, c'est pas nouveau, hein, Hans Berger a inventé l'EEG, l'électroencéphalogramme, en 1927. Mais aujourd'hui, vous avez un EEG d'assez bonne qualité, avec des détecteurs sur la branche des lunettes, avec des détecteurs sur les écouteurs dans les oreilles, et même la possibilité avec des bracelets de détecter suffisamment d'intention de bouger votre main pour commencer à recomposer le mot que vous êtes en train de penser. Donc la détection de l'activité cérébrale et puis la capacité de moduler cette activité cérébrale. Alors, c'est aujourd'hui quelque chose d'extrêmement important. Alors, là encore, pas totalement nouveau. C'est en France, avec les équipes de Pierre Polak et d'Alim Louis Benhabib à Grenoble, qu'on a commencé à la fin des années 80 à implanter des patients parkinsoniens pour faire ce qu'on appelle la stimulation à haute fréquence, stimulation profonde à haute fréquence. Donc, c'est des formes très particulières de patients atteints de maladie de Parkinson jeunes, très rigides. On a l'habitude de voir le Parkinson comme un tremblement, mais là, ce sont des formes où les gens sont complètement bloqués. Et ces stimulations à haute fréquence permettent aux gens d'être débloqués sur le plan moteur, débloqués sur le plan cognitif, parce que quand on est bloqué au plan moteur dans une maladie de Parkinson, on est aussi bien bloqué sur le plan cognitif. Ce qui vous montre deux choses. D'une part, ces technologies existent depuis longtemps. Et d'autre part, modifier le comportement de quelqu'un n'est pas forcément pour son mal. Quand on soigne quelqu'un qui est atteint d'une dépression profonde, on lui fait du bien. Donc, on peut modifier le comportement à bon escient. On peut aussi le faire à mauvais escient et on va y revenir. Donc, ces technologies de lire le cerveau ou décrire le cerveau se sont développés aussi maintenant avec les interfaces cerveau-machine. Le CCNE vient de publier, je crois, son dernier avis. Vous pouvez le trouver en ligne sur le site du CCNE sur les interfaces cerveau-machine et les enjeux éthiques que présentent ces interfaces cerveau-machine. J'ai été membre du CCNE entre 2013 et 2018.
Qu'est-ce que c'est en quelques mots, ces interfaces cerveau-machine?
Alors, ces interfaces cerveau-machine, ce sont des systèmes qui, détectant l'activité cérébrale, sont capables ensuite de la décoder et sont capables ensuite de faire exécuter par une machine ce que la personne aurait l'intention d'exécuter. Aujourd'hui, par exemple, avec ces interfaces, on est capable. Alors, ce sont avec ce qu'on appelle invasifs, c'est-à-dire il faut quand même que l'électrode soit au niveau du cerveau, mais aujourd'hui à la surface du cerveau, incapable avec une précision d'à peu près 95%, donc ça marche à tous les coups, de décoder l'intention qu'une personne a de dire un mot, et ce, avec un délai entre le moment où la personne a l'intention de prononcer le mot et le décodage par la machine et la production par une voix synthétique, de 80 millisecondes, qui permet à des gens, alors pour l'instant c'est dans des laboratoires, c'est en Californie, d'avoir une conversation, des gens qui ont perdu la parole suite à un accident vasculaire dans le tronc cérébral, suite à une maladie de Charcot. Donc ça permet de restaurer leur capacité de s'exprimer. Problème éthique, si on continue à les développer, vas-y, c'est que quand ils n'ont plus l'intention de prononcer ces mots, qu'ils continuent à penser...
Qu'est-ce qu'ils veulent, quand ils veulent les retirer, vous voulez dire, oui.
La machine continue à les décoder. Et là, vous voyez le basculement entre le médical et l'intrusion dans ce que nous avons de plus intime, la vie privée. Et donc, les chercheurs ont été obligés de trouver des protocoles pour mettre en route ou arrêter les algorithmes. Alors, en l'occurrence, c'est un petit mot magique, c'est chiti chiti bang bang pour allumer, chiti chiti bang bang pour éteindre.
C'est bien, ils s'amusent en Californie.
Voilà. d'après la plupart d'entre nous, le problème n'est maintenant qu'une question d'ingénierie pour passer de ça en implant à ça avec des écouteurs dans les oreilles ou avec des branches de lunettes, des capteurs sur les branches de lunettes. Les capteurs aujourd'hui sont déjà capables de monitorer votre niveau de vigilance. Est-ce que vous êtes éveillé ou endormi? Est-ce que vous êtes en train de faire attention à ce que je dis ou est-ce que ça vous intéresse absolument pas? Est-ce que vous êtes ému par ce que je vous dis ou est-ce que ça vous laisse de marbre? Enfin, des choses assez grossières, mais qui permettent de collecter sur un individu des informations de la plus haute importance pour ceux qui souhaitent les collecter. Évidemment, vous vendre quelque chose au passage. Enfin, non seulement ces technologies ne sont pas gratuites aujourd'hui, mais en plus, vous êtes en général le produit. Voilà les raisons pour lesquelles, alors évidemment, on va retrouver avec les neurosciences tout ce qu'on a déjà connu pour la génétique, c'est-à-dire, par exemple, très régulièrement, on demande à un de nos étudiants de se prêter à une démonstration pour une imagerie médicale, pour faire une IRM ou pour un électroencéphalogramme, et puis hop, on tombe malheureusement sur quelque chose, une petite anomalie vasculaire, une petite anomalie d'activité électrique. Bon, est-ce qu'on est dans la recherche? Est-ce qu'on bascule dans le soin? Donc c'est ce qu'on appelle les découvertes non sollicitées. Ce ne sont plus des découvertes ou des découvertes fortuites. Et ça, en génétique, on le connaît depuis très longtemps. Et puis, la question, c'est le basculement. Alors, on en revient à cette question de l'individu ivre de lui-même, la question du basculement de technologie, par exemple la stimulation magnétique transcrânienne, qui est aujourd'hui très utile pour la rééducation de patients après accidents vasculaires cérébraux, mais dont on a pu montrer qu'elle pouvait agir sur l'humeur, donc on rentre dans des contextes d'utilisation pour le bien-être, pour se détendre. Et puis ces technologies se miniaturisent, donc ce qui était lourd et qui nécessitait d'aller à l'hôpital, ben maintenant, pour quelques centaines d'euros, vous pouvez vous le procurer en direct sur les grands distributeurs, sur les places de marché d'Internet. Et donc, la question, elle est la même pour des technologies qui utilisent des ultrasons pour focaliser l'effet d'ultrasons sur une région donnée du cerveau. Enfin, il y a pléthore de technologies. Si vous êtes intéressé, donc l'OCDE d'abord, j'étais dans le groupe de travail, puis l'UNESCO plus récemment, puisque la recommandation a été adoptée en novembre 2025, a publié une recommandation dans laquelle vous trouverez l'ensemble de ces technologies et les recommandations pour les encadrer. Recommandation adoptée à l'unanimité des États de l'UNESCO, et donc qui normalement devrait être maintenant transcrite. Et en particulier dans la loi bioéthique.
Quel principe?
Alors dans la loi bioéthique, on a déjà dans l'article, un des articles phares du code civil, l'article 16, qui est l'article qui protège, comme l'a dit Bruno Sainteau, le corps, la non-patrimonialité, elle est dans cet article 7 du code civil. Bon, il y a déjà des articles concernant les neurosciences, hein, puisque il est dit déjà que les technologies de neurosciences ne peuvent être utilisées que pour des raisons de recherche, de médecine médicale ou judiciaire. Hein. Par exemple, quand il y a des procès en abus de faiblesse, on présente de l'imagerie cérébrale pour montrer que cette personne avait développé un Alzheimer et que donc elle n'était peut-être pas totalement en état de prendre les décisions et de donner un yacht, des tableaux de maître et quelques centaines de millions, si vous voyez de quel cas on parle, et sans référence à la cosmétique quelconque. Mais aujourd'hui, c'est l'imagerie cérébrale qui est encadrée. Et vous entendez bien qu'avec toutes les technologies que je viens de vous dire, ce qui était vrai il y a 10 ans, parce qu'on avait que ces techniques-là d'imagerie cérébrale, ne l'est plus aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est l'activité cérébrale qui est recherchée, et c'est l'activité cérébrale qui devrait être protégée, parce que c'est cette activité cérébrale qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Donc, déjà dans la précédente révision, certains dont j'étais avait sollicité cette modification de l'écriture de la loi, de pourquoi seulement l'imagerie alors qu'il y a tellement d'autres technologies. Aujourd'hui, j'espère que ça va revenir sur la scène et qu'on va cadrer. Puis, dans la vie du CCNE, je ne veux pas être trop loin, il y a beaucoup de recommandations. Je vais quand même terminer par un point qui me tient énormément à cœur, et Bruno Sainteau a déjà parlé des plus petits ou des plus vulnérables. Là, vraiment, il y a un enjeu majeur, c'est que nos enfants n'ont pas un petit cerveau d'adulte. Ils ont un cerveau en développement. L'impact de ces technologies sur un cerveau en développement est aujourd'hui non évalué, inconnu. Les adolescents n'ont pas un petit cerveau d'adulte. Les adolescents ont un cerveau en remaniement profond, avec une exacerbation de certains circuits, en particulier le circuit de la récompense. C'est pour ça que les adolescents aiment prendre des risques et testent jusqu'au bout un certain nombre de choses. Ces technologies, en particulier leur côté addictif pour certains, risquent d'avoir des effets sur ces cerveaux en développement ou en remaniement, également sur des cerveaux plus vulnérables. On parle de l'informatique émotionnelle, tous ces robots qui se développent et qui font croire qu'ils sont d'autres humains, alors qu'ils ne sont que des machines qui miment les effets des humains. Donc c'est aussi très important de protéger les capacités cognitives jusqu'au bout, y compris chez des patients atteints de maladie d'Alzheimer. Il y a des capacités cognitives préservées. Il est très important de traiter l'être humain de sa naissance à son décès avec le même respect, la même dignité. Je terminerai avec Ricoeur, qui est la phrase mantra du comité d'éthique de l'INSERM. À la volonté pour soi, à l'affirmation pour soi de la liberté, ajouter la volonté que la liberté de l'autre soit. Je pense que c'est la conjugaison, comme l'a dit Bruno Sainteau tout à l'heure, de la notion de liberté, mais aussi de la notion de solidarité. On ne peut pas être libre seul. Et ça, c'est la grande discussion qu'on a aujourd'hui entre des sociétés comme la nôtre et des sociétés anglo-saxonnes. La vision anglo-saxonne, c'est une autonomie individuelle. La vision que nous avons, c'est une autonomie relationnelle. Et la grande différence, elle est là. On ne peut pas être humain seul. C'est ce que nous disons. Voilà. Et il y a un risque de perdre son humanité à vouloir avoir raison tout seul ou à être un surhumain ou un transhumain tout seul.
Merci beaucoup. Merci pour ces 4 contributions très riches qui ont ouvert sur des mondes potentiels de questions plus ou moins vertigineuses. Je vous propose de prendre vos questions, si vous en avez. Donc le micro va circuler. Voilà, profitez-en. Vous avez 4 intervenants de qualité qui peuvent à la fois vous répondre sur la question éthique, mais aussi pour certains médicales, technologiques. N'hésitez pas.
Merci pour toutes ces interventions. Je suis un peu étonnée parce qu'aucun de vous n'a prononcé le mot d'IA, dit d'intelligence artificielle, tout petit peu. Mais finalement, dans vos recherches, comment est-ce qu'elle va intervenir et comment vous allez la limiter, peut-être, parce que je crois que c'est le grand danger de demain.
Je peux très brièvement. Alors, tous les avis du comité d'éthique de l'INSERM sont disponibles en ligne ça, c'est pas des avis, nous, on fait des notes, on fait des boîtes à outils pour les collègues. Donc, vous pouvez trouver sur le site HAL, c'est les archives ouvertes, tous les textes, et sur le site du comité d'éthique de l'INSERM. Vous y trouverez le guide du bon usage de l'IA à l'INSERM, guide qui a été dans la première version, est sortie en février 2015, donc je pense que vous y trouverez déjà un certain nombre de réponses. Je vous ai parlé de ces interfaces cerveau-machine ou de ces capacités de détection à partir des EEG de notre activité ou de certaines fonctions du cerveau. Ça, c'est dopé à l'IA, hein, c'est sans l'IA. Donc c'est une convergence. Il y a la convergence de ce qu'on sait en neurosciences, des technologies, des matériaux qui nous permettent la détection de plus en plus fine de l'activité cérébrale. Avec les implants, on est capable de détecter maintenant plusieurs milliers de neurones et l'activité de plusieurs milliers de neurones à la fois. Les capacités algorithmiques de traitement de l'information par l'IA, les capacités de computing qui permettent ensuite de traduire cette activité dans des patterns qui sont reconnus et qui sont finalement les mots qui vont être prononcés par les voix de synthèse. Donc l'IA, elle est partout. Et sans IA, il n'y aurait pas non plus les progrès de la génétique dont il a été.
Oui, puis il faut peut-être dire qu'il y a eu la création, je crois qu'il y a un an, à peu près, d'un à côté du CCNE, d'un comité consultatif national du numérique, voilà, qui est plus spécialisé dans toutes ces problématiques numériques et éthiques, donc ils travaillent aussi beaucoup pour ça. Alors là, ils font pas partie des états généraux parce qu'ils viennent d'être créés, il faut déjà qu'ils s'organisent, qu'ils voient comment ils travaillent, etc. Mais il y a déjà des avis qui sont rendus en commun avec les deux comités, et je pense que ce comité va prendre de plus en plus d'importance. En fait, on a jugé l'autre solution a été de mettre le numérique dans les attributions du CCNE, mais on a jugé que vu l'immensité des problématiques numériques, voilà, il fallait faire quelque chose en soi. Donc voilà, c'est une prochaine conférence pour Bruno.
Peut-être que je peux dire une petite chose là-dessus. Pour moi, l'enjeu majeur, capital, qui doit tout organiser, c'est la relation de soins. En fait, on a le choix entre un art médical qui est un art de la relation, ou bien avoir des ingénieurs en biotechnologie qui nous distribuent des biens selon notre volonté. Ce qu'a dit Pascal tout à l'heure est extrêmement important. C'est-à-dire qu'en fait, savoir n'est pas forcément être capable de traiter l'information pour soi. Qu'est-ce que l'humanité a inventé? Elle a inventé un tiers, qui est un tiers médical. Si j'ai un problème de génétique, je vais aller trouver Pascal. Je vais dire, docteur, expliquez-moi ce qui m'arrive là, j'arrive pas bien à comprendre. J'ai une probabilité de 60% de déclencher telle maladie à tel âge. Docteur, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Mon psychisme ne sait pas quoi faire avec les anticipations, avec des pourcentages de risque de maladie grave. Ça prend sens dans une relation humaine. Le CCNE, dans la vie 148, a reparlé, c'est une vieille histoire, mais enfin, de l'alliance thérapeutique. L'alliance thérapeutique, c'est un partenariat entre médecins et des personnes malades qui viennent trouver le médecin. L'alliance thérapeutique, ça, c'est le contraire du paternalisme, l'ancien paternalisme médical qui dit « moi je suis médecin, je sais ce qui est bon pour vous, n'est-ce pas ?» Et le contraire, en fait, d'une relation client-fournisseur, docteur Pascal, je veux que vous me fassiez tel examen, je veux tel produit, telle prescription. Donc c'est ni le paternalisme, ni la relation client-fournisseur, où on aurait des biotechnologies, et je vais trouver quelqu'un, je lui dis, voilà ce que je veux. C'est l'alliance du soin, c'est un événement humain. Ce qui nous arrive quand nous sommes malades, vulnérables, ça doit être pris dans l'environnement de la relation de soins, la relation médicale. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important, le milieu humain qui permet de traiter des informations dont je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire d'une information, un pourcentage sur la maladie qui peut m'arriver, d'abord si elle est guérissable, pas guérissable, enfin traitable, pas traitable. J'ai besoin de quelqu'un. En fait, la médecine, c'est un cadre d'abord de relations. Et en fait, toutes les questions que nous allons traiter, elles ont, à mon avis, à être prises dans cet art médical qui est un art de la relation. Pourquoi l'IA est importante? Parce qu'elle pourrait, en fait, faire en sorte que le médecin se dise « c'est pas moi qui choisis, c'est le système qui me dit voilà ce que vous avez ». Donc, il y a la relation et la responsabilité qui sont deux points centraux, en fait, de la relation médicale par lesquels ce qui nous arrive peut prendre soin. S'il y a un variant de signification inconnue dans un examen génétique, qu'est-ce que je fais d'un variant de signification inconnue, moi? Je ne sais pas quoi en faire. J'ai besoin d'une relation humaine qui le prend, et je veux dire qu'il métabolise, mon psychisme ne sait pas quoi en faire. Je pourrais être inquiet, je pourrais prendre des décisions complètement ridicules. Oui, c'est ça. Donc, la relation médicale, voilà, l'alliance thérapeutique, et puis la notion de responsabilité. Quels que soient les dispositifs technologiques, il faudra bien que quelqu'un dise « c'est moi qui prescris ». S'il n'y a plus personne qui prescrit, qui est responsable? Et qui en fait, encore une fois, un événement humain? L'événement humain, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui dit « Je me sens responsable de ce qui vous arrive. » Voilà.
Et si je peux enchaîner, en fait, je vous ai dit, le message médical, j'exagère un petit peu, c'est peanuts. Dans la question du consentement, est-ce que vous voulez vraiment connaître cette information? Il y a l'information médicale, mais il faut bien comprendre que révéler une maladie génétique, c'est un parcours de vie qui change. La dimension psychologique est absolument majeure. On parle de maladie génétique, donc on sous-entend que des parents, des oncles, des tantes vont être concernés par l'information, nos enfants également. On interroge donc tous les liens familiaux. Les liens familiaux, ça ne veut pas dire uniquement dire que je vais dire à mes apparentés qu'ils ont une maladie. Ça veut dire que je vais être, ça va changer fondamentalement ma relation avec eux. Je ne parle plus de médecine. Je parle de relations humaines. C'est absolument crucial. Et dans notre évolution, quand on mesure que nos concitoyens souhaitent absolument rentrer dans cette dimension de test génétique, la conférence à laquelle j'ai été là de l'espace régional éthique d'Île-de-France où il me demandait d'intervenir, j'ai découvert en arrivant pour faire ma présentation qu'il l'avait intitulée « Comment maîtriser sa vie ?» Mieux maîtriser sa vie. Mieux maîtriser sa vie. Je l'ai lu 3 fois.
Il y a une soif de contrôle.
Oui, mais avec un risque énorme de confondre la prédisposition et la prédestination. Qui a déjà dit que la vérité était dans notre ADN? Non, la vérité n'est pas dans notre ADN. Nous sommes tous libres, par notre manière de vivre, de faire exprimer nos gènes différemment, de ne pas fumer, de faire du sport, de bien s'alimenter. Ça module l'expression des gènes. Il ne faut pas confondre la prédestination et la prédisposition à des maladies génétiques.
Oui, très important, effectivement. Prédestination, on retombe sur des notions presque religieuses.
Est-ce que la génétique ne serait pas le nouveau destin, n'est-ce pas? Donc là, en fait, on a besoin des généticiens et des grands scientifiques pour nous faire de la pédagogie médicale, merci beaucoup, pour nous aider à comprendre justement ce qu'il y a derrière, ne pas confondre prédisposition et prédestination. Et c'est pour ça, c'est le destin. Ah, voilà.
Et puis, l'autre élément qui est archi important,
oui. Non, allez-y.
C'est de mesurer que l'impact de tous nos choix individuels module la structure de notre société. Quelle va être notre réaction devant une personne qui a eu un AVC si, pendant toute notre vie, depuis la naissance avec le dépistage néonatal, et puis ensuite à toutes les étapes de la vie, on fait des tests pour essayer de prévenir tout, eh bien notre niveau de résilience devant les accidents de la vie sera obligatoirement diminué. Quel va être notre niveau, notre comportement, notre niveau de notre degré de solidarité?
Notre solidité.
Si on est toujours dans la maîtrise, dans le contrôle. Est-ce qu'il n'y a pas à travailler sur, en fait, l'essence de nos vies? Notre vulnérabilité, c'est l'essence de l'être, quand même.
La vulnérabilité peut être heureuse quand elle est accompagnée.
Oui, il y a une question.
Il faut que vous preniez votre train.
Oui. Mille excuses, je dois.
Merci beaucoup, Pascal Saugier-Weber. Oui. Je dois repartir prématurément pour un train, mais qui a fait plus que son office à nous partager des réflexions
sinon, elle rentre à
très profondes.
Minuit passé.
Oui. Voilà, merci. Allez-y, madame.
Oui, bonsoir. Merci pour votre intervention. Et j'avais une question plus particulièrement sur la génétique.
Je vais essayer de vous répondre parce que avec Alexis Brie, on a créé la neurogénétique à la Salpêtrière.
Si un parent est atteint d'une maladie génétique transmissible à 50% sur leurs enfants, est-ce que maintenant il est possible de détecter ou de voir si l'enfant pourra avoir la maladie jeune? Parce que je sais qu'il existe des prises de sang après 18 ans, mais alors, savoir si bientôt il y aura des moyens de savoir.
Pascal a commencé à vous répondre. Alors d'abord, on ne peut pas faire de consultation médicale là en direct, mais il y a une dimension qui est la capacité de séquencer l'ADN et donc de détecter la mutation si elle existe. Ça, c'est une chose. Et ensuite, il y a l'incapacité de prédire l'évolution des choses et quand les choses vont se passer. Vous savez très bien, vous faites l'expérience vous-même de ce que je viens de dire. Si vous avez deux jumeaux monozygotes issus du même œuf, vous savez qu'ils ont a priori à peu près le même ADN. Et puis, il ne vous viendrait pas à l'esprit de supprimer la carte d'identité de l'un en disant, ou le droit de vote de l'un en disant, mais attendez, vous êtes jumeaux, vous êtes deux fois le même ADN. Donc, non, vous savez que plus la vie évolue et plus ces deux jumeaux ou jumelles sont différents. Je vais vous prendre un autre exemple qui montre ça, qu'on appelle l'épigénétique. Dans une ruche d'abeilles, qui font le miel, toutes les abeilles, les milliers d'abeilles qui sont dans une ruche, toutes ont exactement le même génome. C'est une photocopie à l'identique. Et pourtant, vous avez des ouvrières qui font 1 cm et qui vivent 2 mois, et vous avez une reine qui fait 7 cm et qui vit 3 ans. C'est quoi la différence ? La différence, c'est la nourriture des larves. Les unes sont nourries avec du miel, les autres sont nourries avec du miel additionné de 15% de gelée royale.
Voilà, gelée royale pour tout le monde.
Alors, votre magasin Naturalia, du coup, va le vendre. Il n'y a pas de problème, vous en trouvez de la gelée royale. Chez l'homme, je ne suis pas sûr que ça fasse le même effet. Bon, enfin, non, mais toujours est-il que l'épigénétique, c'est ça. Tout ce qui nous entoure, ce qu'on appelle globalement l'exposome, tout ce à quoi nous sommes exposés, notre âge, notre façon de nous alimenter, notre activité physique, Pascal l'a déjà dit tout à l'heure, les maladies qui nous affectent, le changement de l'environnement, tout ça modifie l'expression de nos gènes. Et tout ça va faire que peut-être que deux personnes vont avoir la même mutation, mais il va y avoir la différence de ce qu'on appelle la pénétrance, c'est-à-dire certains vont exprimer la maladie, d'autres ne vont pas l'exprimer, pour des raisons que la plupart du temps nous ne maîtrisons pas encore. Et puis si des conditions de vie sont différentes, par exemple le gène de la drépanocytose, l'état hétérozygote, si on n'a qu'une seule copie, ça ne va pas être très grave si on vit au bord de la mer. Par contre, si on monte en altitude, là, ça peut commencer à poser des problèmes. Donc les conditions de vie sont essentielles à l'expression de nos gènes.
En fait, la vie est toujours une aventure.
Heureusement.
Oui. Allez-y.
C'est très important parce que ça permet de comprendre pourquoi l'extension du diagnostic préconceptionnel en population générale n'est une bonne idée qu'à condition qu'il soit accompagné, c'est tout ce qu'on a dit précédemment. Or, si on fait une extension du dépistage préconceptionnel en population générale, vous vous rendez compte du nombre de conseillers génétiques qu'il faut avoir ? C'est pas possible. Donc voilà, alors je sors de l'émoignage, je sais pas comment, hein. Enfin, bref, on pourra discuter là-dessus. Mais vous voyez que c'est un principe, donc le principe de l'accompagnement, là aussi, est central pour bien interpréter ce qui est en jeu, en quoi mon existence n'est pas complètement configurée, qu'est-ce que j'ai comme marge de manœuvre, ça nécessite d'être accompagné. Donc si la loi autorise le dépistage préconceptionnel en population ciblée, si l'enjeu est de l'extension en population générale, il me semble qu'un argument déterminant, compte tenu de tout ce que nous avons dit, c'est les conditions d'accompagnement de telles décisions et leurs effets sociaux sur ce qui se passe dans la tête des gens quand ils assimilent la génétique à une prédiction ou un destin qui les conditionne pour toujours. Là, il faudra un bel accompagnement pour faire ça.
On a le temps pour une mini dernière question, s'il y en a une. Et sinon, on va rester sur ces paroles de sagesse ou d'autres. Allez-y, Bruno Santo, s'il vous plaît.
Il y a beaucoup d'autres sujets. On n'a pas parlé de la gamétogenèse in vitro, des choses comme ça. Ça donne le vertige. Hein. Pouvoir reprogrammer des cellules de peau en gamètes et pouvoir engendrer. C'est pas de la fiction. Hein. Vous avez je vous invite à travailler ça. C'est un très bon avis de l'Agence de la biomédecine. Donc, c'est effectif chez les souris.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire chez les souris?
Eh bien, on peut... Des souriceaux avec on prend des cellules, on les reprend des cellules, on les reprogramme en cellules totipotentes et on en fait des gamètes. Et on engendre de nouvelles souris avec les gamètes artificielles.
Donc potentiellement, par exemple, une souris mâle, oui. peut faire des ovules.
Oui,
voilà. Alors, et inversement.
Dans la vie de l'Agence de la biomédecine, il y a ce qui est déjà évoqué par nos amis anglo-saxons, mais qui est devant nous dans les, je sais pas combien d'années qui viennent. Les couples de femmes pourraient avoir des enfants conçus avec des gamètes issus des deux parents. Il s'agirait de créer un spermatozoïde à partir de cellules souches d'une des deux femmes du couple. Chez les couples d'hommes, un projet parental avec création d'un ovocyte par gamétogenèse in vitro s'accompagnerait en outre nécessairement du recours à une mère porteuse au travers d'une gestation pour autrui, ce qui soulève d'autres questions importantes. Une autre application de ces techniques est qu'elle permettrait théoriquement une reproduction en solo.
Non, mais là, vous allez nous déprimer tout le monde.
Ce qu'on veut dire, c'est pas pour effrayer.
Il n'y a aucun risque, ça.
Non, mais.
Mais c'est pas pour effrayer, mais c'est pour.
On peut pas. Pour faire ça, Bruno Santo a parfaitement raison que c'est imaginable.
Oui.
Mais, voilà. Pour faire ça, il faudrait tester ces gamètes.
Bien sûr.
Pour faire un test d'embryon, ce qui, éthiquement, est inimaginable parce que. Enfin, en tout cas chez nous, parce que ça serait faire un test d'humain, et en tout cas en France, interdit par la convention d'Oviedo, puisqu'on ne peut pas ni créer des embryons pour la recherche, ni faire des modifications transmissibles à la descendance. Donc, ça ne se passera pas en France, et ça ne sera pas l'objet de la révision.
Non, on ne sera peut-être pas en pointe, mais c'est pour dire, en fait, la
conscience commune des citoyens, où elle doit être mobilisée aussi, de ce qu'on pourra faire, et qu'il faut réfléchir avant que ça se passe. Voilà.
Donc voilà, il faut continuer à réfléchir sur les questions d'éthique. On vous attend là-dessus. Merci beaucoup pour toutes vos questions et pour votre présence.